Alors nous sommes toujours en direct des bars en transe et cette fois-ci nous accueillons le groupe Sudden Death of Stars qui ne sera pas perdu ce soir puisqu'il est d'origine rennaise, donc bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Alors tout d'abord j'aimerais savoir comment est né ce projet de Sudden Death of Stars.
À l'origine on s'est rencontrés, on a joué ensemble en fait, plusieurs personnes du groupe jouaient dans des groupes différents. On jouait ensemble un soir à un concert et ensuite on a décidé de faire de la musique ensemble. On était parti plus sur un truc un peu pop avec une copine à nous qui chantait. Et ça s'est pas fait du tout, mais on a créé ce groupe-là à la place, j'ai envie de dire, quoi. Ça a vécu jusqu'ici. Ça, c'était en 2008. Voilà.
D'accord.
Et pourquoi ce nom voilà.
Ça, pardon. C'est une erreur de Xavier justement sur quand je lui avais fait écouter un groupe qui s'appelait Death Valley Sleepers. Puis il en parlait une fois, il me dit comment ça s'appelle déjà ton truc là, Sudden Death of Stars. C'était en fait c'est, donc, c'est devenu en fait après le premier morceau qu'on a composé, enfin que j'ai composé pour le groupe.
D'accord.
On a décidé de le garder après pour.
D'accord. Et donc c'est... si vous aviez un petit peu à nous expliquer qu'est-ce que Sudden Death of Stars. Personnellement, je dirais que c'est un voyage un peu sous acide, mais c'est ce qu'on vous dit souvent, c'est un peu psychédélique, ouais. Et c'est génial parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça depuis les années 60. Mais vous, qu'est-ce que vous en diriez?
La question du psychédélisme, oui. La question de l'acide, peut-être moins. Je pense qu'il y a plein de groupes qui font de la musique beaucoup moins psyché et qui prennent beaucoup plus de drogue que nous, à mon avis.
C'est sûr.
On est assez calme là-dessus, hormis ce qui est légal. Mais voilà. Je sais bien. Psychédélisme. Après, il y a plusieurs types de psychédélisme. Enfin, c'est un mot un peu fourre-tout et il y a
surtout
un peu
en ce
toute
moment.
La musique. Ouais, surtout en ce moment. Mmh. Et il y a plein de trucs qui sont mis sous le titre de psychédélisme, des trucs. Assez lourd et très lancinant comme les Black Angels par exemple, ou des trucs par exemple avec qui on joue ce soir, Orval Carlo Sibelius au Sympathique, qui va être beaucoup plus arrangé avec des orgues, etc., qui aura rien à voir, enfin qui a pas grand chose à voir avec les Black Angels. Pourtant les deux on dit que c'est de la musique psychédélique. Nous psychédélique parce qu'on aime bien aussi, on écoute beaucoup de musique de cette période là, la période faste du psychédélique anglaise, fin des années 60, 65, 6, 7, 8, jusqu'à début 70. Et donc voilà, peut-être, mais après, ça ne nous limite pas. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus rock, beaucoup plus pop. Enfin...
Alors moi, ça me fait beaucoup penser au Brian Johnston Massacre. Est-ce que c'est une de vos références principales?
Oui.
Ouais.
Non, oui, c'est sûr. Ouais. Enfin, je peux peut-être laisser Goulven en parler plus que moi.
Bah moi en fait j'ai commencé à l'idée de faire un groupe après avoir vu Dig, donc
oui,
ça situe bien le truc.
Ouais.
Je pense que ça se discute pas sur ce qu'on voulait faire au début. On s'en est un petit peu plus détaché par la suite parce qu'avec les autres personnes qui sont intervenues dans le groupe, qui ont apporté des influences autres, quoi. Peut-être plus axées 60s, vraiment, enfin original. Et on peut pas nier que c'est pas une influence, c'est sûr.
C'est le label Corner Shop, si je dis pas de bêtises.
Non, en fait, c'est pas. C'est pas le nom du label.
Pardon.
Le nom du. Non, c'est pas grave. Le nom du label, c'est Ample Play Records.
D'accord.
Et c'est le chanteur fondateur et le guitariste qui ont fondé ce label là, de Corner Shop, qui ont fondé ce label là avec Marie aussi, qui est française mais qui vit en Angleterre.
Un label londonien, on rappelle. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir signé sous ce label-là?
On est super contents. En fait, c'est vraiment un gros hasard s'ils avaient pris leurs vacances deux semaines après ou deux semaines avant.
D'accord.
On les aurait pas rencontrés parce qu'ils étaient en France à ce moment-là. Ils étaient dans le Morbihan, ils ont regardé ce qu'il y avait comme concert à aller voir. On jouait, c'était en 2011, l'automne 2011. 2012, pardon.
Ouais.
Et on jouait aux Embellis pour le festival des Embellis à Lorient.
Aux Indisciplinés. Les Embellis,
ouais.
CRN.
Ouais,
et t'as joué pour eux en plus.
Ouais, ouais.
Non, on jouait pour les Indisciplinés. On ouvrait le festival dans un bar.
Vous engueulez pas.
Et ils nous ont même pas vus en fait. Ils étaient pas là. Justement, leurs vacances étaient terminées avant qu'on joue. Mais ils nous ont chopés sur le programme en fait. Ils ont vu justement rock, psyché, sitar. Brian Johnson Massacre, donc ça les a fait tilter un peu. Ils sont allés écouter, ils ont adoré, et donc ils nous ont proposé un rencard. On les a vus comme ça 2-3 fois à Rennes quand ils venaient en vacances. On a discuté, on les a trouvés fort sympathiques et surtout extrêmement enthousiastes à l'idée de bosser avec nous sur notre musique. Donc on pouvait qu'être content et que dire oui, quoi. Donc pour l'instant, ils ont ressorti en digital ce qu'on avait sorti en vinyle avant sur un petit label parisien qui s'appelle Close Up. Et là, on vient de faire notre première sortie physique avec eux. Donc c'est un split single pour Noël.
Voilà, j'allais venir dessus. Voilà,
avec le groupe Beatmark, un groupe parisien, qui est chez eux aussi et qui avait sorti une chanson de Noël. Donc autant faire un petit disque comme ça. Donc on l'a reçu cette semaine, on l'a pour ce soir si les gens sont intéressés. Et on a fini le deuxième album, on vient juste de le finir et ça sortira au mois de mars.
D'accord.
En CD, en digital et en vinyle.
D'accord. Alors par rapport justement à ces deux titres de Noël, c'est la première fois que vous faites des titres de Noël.
Je vais laisser Valentin répondre puisque c'est son morceau.
Et apparemment on entend même des cloches sonner dans ces deux titres, alors du coup
c'est obligé en fait, sinon
ça va pas Noël.
C'est la fédération.
Si on met une réduction fiscale, si on met des cloches sur les disques de Noël.
Ah c'est pour ça, d'accord. Très bien, on comprend mieux maintenant.
En fait il s'agit d'un split, c'est-à-dire que l'un des titres est de nous et l'autre d'un groupe camarade de label. Et c'était un peu un hasard en fait. On s'est pas dit, ah tiens, on va tous les deux faire un truc de Noël.
D'accord.
C'est juste que eux, c'est une coïncidence. Donc, du coup, on pouvait pas laisser passer l'occasion de sortir un disque pour Noël. Paf.
D'accord.
Voilà, voilà.
C'est assez original pour un petit groupe de un groupe de rock. Psyché justement. Ah non, on n'aime pas ce mot, pardon.
Non, je plaisante.
Non, mais c'est marrant pour un groupe de rock de sortir un petit titre de Noël, mais c'est sympa.
Bah, c'est un peu une grande tradition, enfin en tout cas dans le rock américain, enfin anglo-saxon, on va dire. Bon, nous, pour l'instant, on n'a pas les épaules assez solides pour sortir un album de Noël, mais on commence avec un split.
Ouais.
Parce que voilà, Sinatra a souvent fait ça, Elvis, Phil Spector, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, quoi.
Ok.
Et sinon, sur scène, comment ça se passe? Puisque c'est quand même un univers assez planant, donc...
Ça donne quoi?
Eh ben, on a des choses qui prennent leur temps et qui sont peut-être un peu planantes, mais on a aussi beaucoup de morceaux assez nerveux et qui, justement, je trouve, prennent vraiment leur dimension, prennent une autre dimension en live, ou vraiment, surtout dans un petit bar comme dans lequel on joue ce soir, c'est un peu plus tight, quoi, on va dire.
Oui, non, et puis, vu qu'on est 7 sur scène, avec 2 guitares, un orgue, une basse, un sitar, ça fait tout de suite un volume sonore qui est, même si on décide de ne pas jouer très fort, il y aura de toute façon un volume sonore assez conséquent. Et donc ouais, c'est assez entraînant. On essaye de mixer un peu, on essaye de mixer. Tout à l'heure, on était en train de faire la setlist parce qu'on ne sait pas du tout, on ne savait pas il y a une demi-heure ce qu'on allait jouer ce soir. Mais voilà, on essayait un peu de mixer, de faire des passages dans le set un peu plus endiablé et d'autres morceaux un peu plus calmes. Voilà, faire un début assez prenant, un milieu un peu plus calme, une fin un peu plus dansante aussi pour
plus
les gens,
enlevé,
dansante entre guillemets, mais plus pour que les gens bougent un petit peu leurs jambes, quoi, pour parler.
Si je dis pas de bêtises, vous étiez au Transmusical il y a
3 ans,
ouais, c'est ça.
Ça, ouais.
Exactement. Je me souviens que j'avais le petit album et qu'il y avait Sudden Days of Stars. Qu'est-ce que ça vous fait d'être maintenant au bar en trans?
Bah nous on voit, enfin,
s'il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout une idée de régression ou tout comme ça, on s'en fiche complètement.
Non, c'était même pas ça ma question. Je veux dire,
en 2010,
encore dans le cadre des trans que je voulais dire.
En 2010, on faisait partie d'un dispositif d'accompagnement. Et donc cette année, par exemple, il y a, je sais pas, The Red Goes Black, Fat Supper, enfin plein de groupes aussi qu'on connaît un petit peu d'ailleurs, droite à gauche, quoi. Et c'était vraiment très cool. Mais c'est vrai qu'on avait le sentiment quand même d'être programmé. Parce que chaque année, il faut 5-6 groupes rennais comme ça qui vont jouer à l'étage. Là, on sent plus vraiment une cohérence de programmation. On joue avec Orval. On a donné des nouvelles à l'équipe des bars en trans au début de l'année scolaire, quoi, au mois de septembre. On leur a dit un peu justement ce dont on vient de parler avec Uncle Play, ce qu'on a fait récemment. Et ils nous ont répondu de façon très très cool en disant justement, on pensait à vous faire jouer avec Orval. Donc nous on trouve ça très très cool, mais c'est vraiment séparé, hein, les deux festivals.
Ah non, mais bien sûr, non, c'est pour ça que ma question aurait plutôt été dans le cadre des trans à nouveau, même si oui, le bar en trans, transmusical, c'est pas la même asso, on le sait, mais
c'est les deux sont très 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 cool, mais on n'a pas encore mangé, donc on pourra mieux répondre à cette question après. On va voir quel catering est le meilleur, celui des trans ou celui des bar en trans. On verra.
Je vois. Le bracelet des bar en trans est plus joli que celui des trans, en tout cas.
Ouais, il est plus simple.
En tout cas, on vous retrouve donc ce soir au sympathique bar en première partie de soirée, on va dire. En deuxième partie de soirée.
Ouais.
Après, Orval, Carlos Sibelius et Clara, encore une question.
Non, tout simplement sur la prépare en trans. Donc là, les projets d'albums, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des projets de tournée, de concerts.
Oui, ouais. Justement, en fait, donc l'album sort le 10 mars
voilà.
Et on tourne un peu pour la sortie du disque. Donc on va jouer, c'est en construction en ce moment, mais en gros on va jouer en Angleterre un petit peu, vu que le label est anglais,
voilà, ouais,
au Benelux. On va souvent jouer en Belgique, on a souvent des plans là-bas, c'est assez cool. Et on fait une release party à Rennes le 15 mars.
D'accord.
Voilà, sans doute, c'est pas encore fixé, mais ça sera sans doute dans ce nouveau lieu qui est le 1988 Live Club.
Ouais.
Qui fait aussi partie des bars en trans cette année.
Bien sûr.
Voilà.
D'accord. Et ben merci beaucoup et puis bon concert ce soir.
Bonne continuation et passe une bonne soirée au bar en trans.
Merci bien.